potes, alors on se retrouve aujourd'hui pour le troisième live de Mon Japon. Alors je vous résume un peu le concept de ces lives. Nous allons recevoir toutes les deux semaines un invité qui va nous parler de son Japon. Voilà, ouais, bien résumé, je pense. Bien résumé.
C'est très bien résumé, Sylvain.
Merci Laurent. Quant à moi, je serai ici pour lire vos questions et donc du coup les noter et puis les poser après à Laurent. Et je laisse la place à mon comparse, David.
Plus parce que con, j'espère. Merci Sylvain. Bonjour Laurent.
Salut. Cassia est salut tout le monde. Salut, salut Sylvain.
C'est notre invité d'aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. On t'a demandé de te lever peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude, un dimanche matin. Pas de grasse mat aujourd'hui pour toi.
Oh, ça va quand même. Bon, ça fait pas longtemps que je suis réveillé, mais ça va. 11h, bon. C'est bon.
Alors, comme d'habitude, je vais me permettre de te présenter à ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous en ce dimanche matin. Donc Laurent, tu es un globetrotter vlogueur, donc passionné de voyage. Quand tu es en France, tu habites Fréjus. Fan ouais. d'Airsoft, tu y as fondé la Team Airsoft 21.
Ah, ça c'était avant, ouais. t'as trouvé ça où comme info, ouais.
J'ai mes sources.
Ça c'était avant de voyager. Ouais, j'avais monté un club d'Airsoft. Dans une base militaire, donc voilà, je l'ai gardé pendant 2 ans, donc j'ai été président du club pendant 2 ans, et après, une fois que j'ai commencé à voyager, donc avant mon départ en Australie, ben j'avais laissé la main au club, et depuis, ben j'y suis pas retourné. J'ai mes armes qui font dodo.
Alors justement, un jour, tu décides que ta vie serait plus amusante si tu te lançais à la découverte des antipodes, tu signes pour 1 an d'exploration de l'Australie par le biais d'un visa working holiday, mais... Ouais. Au bout de quelques semaines, une envie d'ailleurs te pousse à quitter le pays des kangourous. Le yes. hasard te mènera en Corée du Sud, tu connaîtras un vrai coup de foudre pour le pays et pour une de ses habitantes, qui deviendra ta femme.
Pas encore à ce moment-là.
Mais plus tard. Mais tu as goûté aux joies du voyage et de la découverte. Le monde, et plus particulièrement l'Asie, devient ton village. Tu visiteras également la Chine, Taïwan, Hong Kong, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam... et le Japon, auquel tu consacres entièrement ta 4e et dernière saison. Une de tes yes. particularités est que tu filmes la journée, tu montes le soir, et tu mets en ligne ton épisode dans la foulée, ce qui donne à tes abonnés la sensation de vivre tes aventures en quasi-direct. Une de tes marques de fabrique est le fameux « Hasta la vista », ce qui m'amène à ma première question. Comment tu as trouvé ce gimmick ?
Alors, si tu regardes les premières vidéos que j'ai fait en Australie, je crois que ça arrive à la 3e vidéo. Un total hasard, comme ça, je fais ma vidéo, je finis ma vidéo, et à la fin de la vidéo, je fais bah salut, à demain, et hasta la vista. Et au moment où je sors ça, en plus, je dis, tiens, mais n'importe quoi, comment je finis mes vidéos? Et je coupe la vidéo. Et je crois que je le dis une fois encore pour rigoler, puis pendant, je sais pas, peut-être une semaine, je le dis plus. Et puis il y a quelqu'un qui me fait la réflexion, qui me dit, oh, c'était sympa quand t'avais dit hasta la vista, ça nous avait fait rire et tout. Puis après ça, bah, je l'ai redit une fois, deux fois. Puis après, je l'ai dit à toutes les fins de vidéo et c'est resté la marque de fabrique, tout simplement. Tous les petits trucs que je vais avoir comme ça en vidéo, comme les cartes postales, les flammes ou quoi, c'est que des choses qui sont venues au fur et à mesure des vidéos tout seul, avec l'échange des gens, ce qui vous a fait rire et ce que les gens nous ressortaient comme ça.
Donc, c'est pas ton âme marketing qui, avant chaque épisode, réfléchit à ce que tu
veux dire. Ah non, il n'y a aucune âme. Dans mes vidéos et dans ma façon d'être, il n'y a aucune âme marketing, il n'y a rien du tout, quoi. C'est juste, je fais des choses et je vois comment ça se passe.
Alors, on parlait tout à l'heure de ta passion pour l'airsoft. Tu laisses tomber cette passion-là pour une autre passion qui est celle du voyage. Quel a été ton moteur pour, du jour au lendemain, décider de laisser ta vie en France et partir à l'étranger?
Alors moi, tu vois, à la base, j'ai une formation, donc j'ai un bac plus 2 dans tout ce qui est graphiste, infographie, webmaster, tout ça. Ouais. J'ai bossé un peu là-dedans. J'ai bossé un an dans un bureau et... au bout d'un an, tu vois, rester enfermé dans un bureau, derrière un écran, 8 heures par jour, c'est fatigant. Et quand tu le fais pour ton travail, vraiment 8 heures par jour comme ça, quand tu rentres chez toi, t'as plus envie d'être derrière un écran. Donc, ce qui à la base était une passion, donc de faire un peu de graphisme et tout, ça devient au final pénible. Donc, j'ai changé de boulot. J'ai fait éboueur après pendant 1 an. Ouais. Ensuite j'ai voulu devenir prof, mais bon, c'était compliqué, donc j'ai fait juste surveillant pour travailler à l'école, être proche des élèves, machin, et j'ai enchaîné plein de petits boulots comme ça, et au bout d'un moment je me suis dit bon, je tourne un peu en rond, Et je suis allé voir un ami qui habite toujours à Paris, qui lui revenait d'un an d'Australie. Et il m'a dit, ah, je reviens d'Australie, c'était excellent, machin et tout. Il m'a montré quelques photos qu'il avait fait comme ça. Et j'ai fait, putain, bah écoute, c'est super, bah je vais partir. Et je suis rentré chez moi, donc à Fréjus, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Rick. Et tu vois, Rick, c'était un ami, ça faisait quelques années qu'on se connaissait, on avait été en cours ensemble et on s'était un peu pas perdu de vue, mais on avait chacun nos routes de notre côté. Ça faisait un an, je crois, qu'on s'était pas capté. Et là, je l'appelle, je fais ouais, Eric et tout, j'ai un truc à te proposer, je pars en Australie, viens avec moi. Et là, Rick, il me fait bah attends, Lolo, j'ai un CDI, j'ai un appart, j'ai une copine et tout. Je fais ah, bah écoute, donne-moi ta réponse assez rapidement. Moi, je pars, si t'es chaud, tu viens avec moi, tu vas voir, ça va être une sacrée expérience. Et le lendemain, il me rappelle, il me fait OK, c'est bon, je viens. Et nous voilà partis pour l'Australie.
Et alors, finalement, dès le départ, tu as souhaité voyager, non pas seul, mais accompagné.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Dès le départ, moi, j'ai préféré privilégier le voyage accompagné. Seul, bah, je m'ennuie un petit peu, je m'ennuie un petit peu, et j'aime bien en fait partager, rigoler, taquiner. Donc, j'aime bien être accompagné dans tous mes voyages, qu'il y ait quelqu'un avec moi, que ça me rend plus vivant. Et tu vois, quand je vois un truc et que je suis avec quelqu'un, je dis pas que c'est mieux de voyager à plusieurs que de voyager seul. Ça va vraiment dépendre de la personne, de son sentiment, de ses envies. Moi, ce qui me correspond plus, c'est d'être avec quelqu'un. De toute façon, tu vois, si je vois un truc et que je suis seul, je vais dire, oh, putain, regarde, machin, puis on va dire une connerie, on va rigoler et tout. J'ai besoin de ce petit truc, d'être avec quelqu'un pour échanger en direct.
D'ailleurs, sur ta quatrième saison, celle qui se situe complètement au Japon, tu commences avec un photographe, Kazu. Tu continues avec deux personnes que tu rencontres. Je ne sais pas si tu les connaissais déjà avant Hideto et Pandaman pour faire
Alors,
deux beaux voyages. Et au final, tu termines avec Guillaume d'Ichiban Japan. Donc finalement, tu es tout le
c'est
temps
ça.
accompagné.
Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est
Alors,
ça.
cette quatrième saison qui est pour moi, en tout cas, la meilleure dans ce qu'on a pu en voir et certainement dans ce que tu as pu vivre. Si tu devais donner l'envie de la regarder à ceux qui certainement la connaissent déjà et qui nous suivent aujourd'hui, qu'est-ce que tu en dirais?
Oh, pour donner envie de la regarder, je sais pas. Si tu veux, je sais pas, ouais, si tu veux aller découvrir le Japon dans une série de vidéos, voilà, où tu vas voir un petit peu comme si c'est toi qui partais en voyant ce qui va se passer du matin au soir et en l'organisation un petit peu du truc, bah voilà, tu peux aller voir les vidéos.
Alors, c'est peut-être pas le cas sur cette dernière saison, mais sur les saisons précédentes, tu as une façon de voyager sans préparation au préalable.
Tout à fait.
D'ailleurs, tu racontes assez régulièrement que la première fois que tu arrives au Japon, donc pas dans la saison 4, mais dans une saison précédente,
La saison 3, ouais.
tu te retrouves sur le crossing de Shibuya que tu ne connaissais pas, et c'est un de tes abonnés qui te dit, mais waouh, tu as vu où tu es?
Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, je me rappelle la saison 3. Normalement, quand je voyage quelque part, j'ai aucune préparation, rien du tout. J'arrive dans le pays, je suis avec Rick et on fait bon bah qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, on va par là, on verra bien, on trouve une carte. Bon, sur la carte, regarde, il y a un monument qui est dessiné là, on va aller voir le monument. Ce genre de truc et on voit au fur et à mesure des rencontres et de ce qu'on croise dans la ville, ce qui se passe. Et quand on arrive au Japon, moi je connais rien du Japon. Moi, à la base, je suis pas trop, je regarde pas trop les animés, le manga, je me suis pas trop documenté, donc je connais pas trop le Japon. Je connais bien sûr, j'ai grandi avec Dragon Ball Z, les samouraïs, les ninjas, donc j'ai une petite base de culture du Japon, mais vraiment très léger. Et j'arrive au Japon et on avait pris un appartement à Shibuya. J'avais vu que c'était un quartier qui bougeait beaucoup, donc j'avais privilégié un quartier vivant pour prendre un logement, mais je connais rien du tout. Et je me rappelle, on traverse le passage piéton et je crois dans ma saison 3, donc c'est la première journée, on traverse le passage piéton et puis je calcule même pas le truc, tu vois, donc je traverse et puis on arrive à l'appartement, bon bah voilà, on se revoit demain et tout. Et c'est un abonné qui me met en commentaire, t'arrives au Japon, tu passes sur le passage piéton, tu calcules même pas, tu t'en fous et tout. Et donc je fais, pourquoi il me parle du passage piéton lui? Et je regarde sur internet et je fais, ah ouais putain, c'est un truc super connu, Rick, t'as vu en fait? Il me fait, ah ouais, tout. Et parce qu'en fait, tu vois, juste avant, on était en Thaïlande, donc à Bangkok, et au Vietnam, où là, c'est tellement bruyant, il fait chaud, et t'as une sensation, tu sais, c'est bruyant, c'est pollué, il y a du bruit, t'as une sensation vraiment oppressante autour de toi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a du monde, ça part dans tous les sens, et tu vois, c'est pas organisé du tout. Donc, en Thaïlande, ça passe comme ci, comme ça, il y a des croisements, le Vietnam sur la route, c'est n'importe quoi. que je te jure, quand on est arrivé au Japon, même à Shibuya, au passage piéton ou quoi, avec Rick, on avait l'impression qu'il n'y avait personne. On se disait, putain, il n'y a personne ici. C'est tout le monde marche tout droit, il n'y avait pas un bruit et tout. On se disait, putain, est-ce que c'est calme, tu vois? Et donc, ça ne nous avait pas choqué le fait qu'il y ait du monde, que ce soit grand. Pour nous, ça nous paraissait petit calme comparé au truc de fou qu'on avait vu juste avant. Ça faisait vraiment un gros contraste puisqu'on avait enchaîné les premières saisons comme ça, Thaïlande, Vietnam, Hong Kong, pareil. Hong Kong très bruyant, très serré à Hong Kong avec les grandes tours et des petites rues. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, vas-y, à toi la parole.
C'est parfois pour cette raison-là qu'on se demande si le Japon fait partie de l'Asie ou pas, parce qu'il y a des vraies différences entre les autres pays qui sont autour et le Japon.
Ah.
Simon, tu as quelques questions certainement à
Yep.
poser?
Alors avant, c'est pas du tout une question, mais juste, Pandaman est dans la place et il dit Laurent, je t'aime. Et
Il est
pour
quoi?
David, stylé comme Georges Clooney.
C'est gentil.
Et
Ah,
ensuite,
c'est
j'ai
pas
pas
vrai,
mal,
mais c'est gentil.
pas mal de
Il y a un
questions.
petit air, il y a un petit air. Est-ce que tu as du café?
Bonne journée,
C'est Sylvain qui l'a.
Bratels. Il y
Futur
a
Georges Clooney.
Pacoun qui demande pourquoi t'es fétichiste des brossettes?
Alors, les brossettes,
Des
tu vois, les brossettes.
brossettes.
Non, ben ça, en fait, tu vois, c'est ce que je te disais, comme le Hasta la Vista, les flammes et tout. Ça vient d'une vidéo, en fait, où on passe dans une rue. Je suis avec Ichiban, Panda et Hideto. On passe dans une rue, et à ce moment-là, j'avais super faim. Et je voulais qu'on s'arrête quelque part pour manger un petit truc. Et on passe dans une rue, et t'as un petit stand avec des odeurs de brochettes. Puis on passe une fois, puis on continue, on marche. Et puis il y a un deuxième stand avec pareil des brochettes. Puis on arrive à une place, enfin, on passe une sorte de petit tunnel où là, il y a plein de brochettes et ça sent super bon et tout. Et je commence à leur dire, les gars, putain, les gars, il y a des brochettes. Ah, les gars, on s'arrête. Il y a des brochettes. Et en fait, ils s'éloignent, ils me calculent pas, ils continuent, ils avancent comme ça. Et moi, je les appelle, je fais les gars, les brochettes, les brochettes. Et ils me mettent un gros vent monumental. Et du coup, bah voilà, je l'ai mis dans la vidéo puisque quand j'ai revu la vidéo de comment ça se passait, ça m'a fait rire et ça a fait rire les gens aussi. Et donc, du coup, bah voilà, et c'est resté ce petit truc des brochettes. Et j'adore les brochettes.
C'est très bon les brochettes. Il y a T. Williams qui demande, d'après toi, sans diplôme, on peut aller loin en Asie niveau travail et niveau vie sociale?
Bah si tu cherches un travail normal, c'est-à-dire travailler pour une compagnie ou quoi, et que t'as pas de diplôme, et que tu parles pas bien anglais, et que tu parles pas la langue du pays, bah tu vas vraiment ramer. C'est vraiment difficile de trouver des boulots, des vrais boulots. Attention, tu pourras faire des petits boulots, je sais pas moi, des boulots, je sais pas, travailler dans un bar, des petits trucs de base, tu vois. Si vraiment tu vas avoir un vrai travail, il va falloir que tu parles la langue du pays, parce que là-bas c'est des pays où la concurrence est très très rude. Donc toi, si t'arrives, si t'as pas de plus-value à apporter à un employeur, bah non, tu trouveras pas du travail.
Ensuite, là, je galère un peu niveau questions parce qu'il y a pas mal de questions. J'en posais une dernière là pour l'instant,
Oui,
peut-être d'autres
vas-y,
après.
vas-y, vas-y.
Quelle est la date de ton prochain voyage et quels sont tes projets futurs?
Alors, bah, le prochain voyage, là, c'est le voyage des abonnés. Voyage des abonnés fin avril, mai, juin. J'ai un petit projet qui se fait, donc un petit vlog Corée qui va se faire normalement avec l'agence de voyage justement qui me permet d'organiser le voyage des abonnés. Normalement, je vais faire un petit truc avec eux où je vais partir avec eux dans la Corée du Sud, faire un petit vlog pour explorer la Corée. Donc ça, voilà, ça c'est petit exclu du live, je l'ai encore annoncé nulle part.
Ouais.
Ensuite, au mois de juillet, j'ai la saison 5 avec Rick. Et normalement, début de l'hiver, donc enfin, début de l'automne plutôt, fin septembre, début octobre, je retournerai au Japon pour la saison 6. Mais ça, voilà, c'est encore en train de se décider. Ce qu'il y a de construit là, c'est le voyage des abonnés, petit vlog Corée et saison 5 Taïwan.
Est-ce qu'on continue?
Non, je vais continuer à noter la question
D'accord.
et.
Est-ce qu'on peut s'attarder sur ce que tu appelles le voyage des abonnés et expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce principe absolument fabuleux? Je crois que tu es le premier à l'avoir fait. Peut-être que ça se passe ailleurs
Tout
dans
à
le
fait,
monde,
je
mais
suis
en
le
tout
seul.
cas en France, tu es le premier à avoir eu cette idée absolument fabuleuse de se dire, les gars, je connais bien un pays, c'est la Corée du Sud en l'occurrence, et je me propose de vous accueillir et de vous faire visiter à ma façon ce pays que j'aime beaucoup. C'est génial.
Tout à fait. Alors en fait, tu vois, c'était après la saison 3. J'avais prévu déjà, c'était avec mon pote Jodé. Jodé, c'est un mec qui a une chaîne YouTube et qui fait de la course à pied. Et j'avais déjà voulu organiser un voyage abonné. C'était en Corse où on devait partir 15 jours pour traverser la Corse à pied. Et donc voilà, j'avais déjà donc organisé le truc avant ma saison 3. Et ça devait se faire justement, ce petit voyage des abonnés, après la saison 3. Donc, on devait partir en Corse comme ça et tout. Sauf ce qui s'est passé, c'est que après la saison 3, pour ceux qui connaissent, c'était vraiment une saison très très fatigante. Et je me sentais pas de faire ce voyage en Corse pendant 15 jours en mode, c'était un voyage à thème, tu vois, c'était où on partait avec nos propres vivres et on devait traverser la Corse en passant dans les montagnes et tout, avec notre sac à dos, la tente, on devait se trouver pour se ravitailler et tout. Et bref, voilà, le timing c'était mal goupillé, mais j'avais déjà essayé dans le passé justement d'organiser un truc que je pourrais faire avec les abonnés comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est l'année d'après, donc en 2016. Normalement, je faisais mes saisons justement en avril-mai. Donc, c'était la saison 1 avril-mai, saison 2 avril-mai, saison 3 avril-mai. Et la saison, et donc en 2016, donc ça allait être la saison 4. Mais en 2016, j'ai entendu un écho, c'est pour ça. Donc en 2016, ouais, j'étais en Corée au début de l'année pour faire étudiant. Enfin voilà, j'ai été à l'université pour apprendre un peu le coréen là-bas. Et du coup, je me dis je suis en Corée, je commence à bien connaître le truc. Plutôt que de faire une saison, je vais partir en vlog, je vais refaire le truc parce que j'ai envie de faire ça, de tester cette expérience, de faire venir des gens, puisque je recevais beaucoup de messages de gens qui me disaient qui voulaient venir avec moi, qui voulaient m'accompagner, qui voulaient découvrir un pays, ce genre de choses. Donc j'ai dit je vais faire ce voyage des abonnés en Corée du Sud, puisque là je suis en Corée du Sud et je commence à bien connaître le truc. Donc voilà, je vais organiser un petit peu le truc pour que les gens viennent. Et j'ai mis ça en place, j'ai organisé ça. Au début, je voulais l'organiser seul, et puis au niveau des droits, des assurances et tout, c'était compliqué, je pouvais m'exposer à des risques, voilà. Donc il y a eu un petit peu, au début, j'ai organisé ça, des rebondissements dans le truc, mais j'ai pas lâché l'affaire, j'ai pas abandonné. Et j'ai fait comment je peux faire et tout, donc j'ai continué à essayer de choper des informations à droite à gauche. Et je me suis rapproché de l'agence Corée Voyage, que j'avais déjà rencontré dans ma première saison en Corée du Sud. On s'était déjà vu, on avait fait des petits repas, puis on était resté en contact. Et je me suis dit je vais aller les voir, et je vais voir si, en passant par eux, s'ils sont ok pour m'aider entre guillemets à organiser ça de façon à ce que ça puisse se faire. Et ils m'ont dit écoute Lolo, nous on a bien le contenu que tu fais, donc s'il y a moyen qu'on fasse le truc, tu nous dis comment tu veux faire le truc, et puis ok, ça part, on fait ça. Et du coup, la première année, j'ai pu faire ce voyage des abonnés, donc j'en ai fait 3, où il y a justement les vidéos sur YouTube, donc quelques vidéos de ces 3 premiers voyages. Et ça a été vraiment une régalade, ça a été vraiment bien cet échange qu'il y a eu, on s'est vraiment régalé, je suis tombé avec des gens super qui étaient là vraiment pour passer un bon moment, pour s'amuser, pour échanger. Et donc je me suis dit c'était vraiment génial. Il n'y a pas de raison que je le refasse pas. Il y a vraiment que du positif. Il y a aucun moment je pourrais dire non, il y a vraiment que du positif. Les gens, ils sont tous repartis avec des étoiles dans les yeux. On est tous restés en contact. Il y en a même qui justement après ça, ils se sont. Du coup, on a formé un petit groupe. Tu vois, c'est tous des gens qui se connaissaient pas. Et ben, il y en a même après qui ont refait des voyages entre eux, puisque du coup, il y a un petit chat sur Facebook où chaque groupe, on se parle encore en groupe. Et il y en a entre eux qui se sont réorganisés des voyages et qui sont repartis après ou en Corée. Il y en a qui sont organisés des voyages ailleurs, il y en a qui sont partis ensemble au Japon. Donc voilà, ça a vraiment créé quelque chose. Je me suis dit c'est vraiment génial, et je vais refaire ça parce que voilà, c'est super.
Et d'ailleurs, pour cette deuxième session, c'est parti très très vite, me semble-t-il.
C'est parti très vite. Donc voilà, j'ai annoncé le voyage des abonnés et en une journée, j'avais 50 inscrits pour 2 voyages. Donc j'ai fait j'ai tout fermé et ça a été assez compliqué, la gestion du truc. Donc j'ai essayé de rappeler tout le monde, de voir ok machin et tout, et voilà. Donc ça s'est rempli très très vite.
On en profite pour saluer Pierre de Corée Voyage.
Tout à fait,
Pierre, pour l'occasion. Sylvain, est-ce que tu as d'autres questions?
J'en ai plein.
Ah, formidable.
Trop de questions. Une question de Jeanne qui demande si tu comptes t'installer en Asie.
Non.
Ok, question suivante.
je vais développer un petit peu. Alors non, puisque tout bêtement, j'arrive pas en fait à rester en place définitivement quelque part, c'est-à-dire ni en France, c'est-à-dire quand je reste en France 4-5 mois, au bout d'un moment, j'en peux plus, j'ai envie de partir. Mais ça me fait la même chose quand je suis dans d'autres pays, quand je suis en Corée du Sud, malgré que ça soit entre guillemets mon deuxième pays maintenant. Même au bout de 4-5 mois, en Corée du Sud, j'ai envie de partir et de voir autre chose. Donc m'installer, c'est-à-dire moi quand j'entends installer, j'entends rester dans un pays, voilà, ça fait 3 ans que je suis dans le pays, machin et tout. Non, j'y arrivais pas encore et j'ai ce besoin de bouger, tout ça. Donc je reviens en France, on va dire en France, être ma petite base, mon petit cocon, voilà, où je peux rester, travailler, mettre des sous de côté, je sors pas, je fais mon truc et ça me permet après de repartir et de faire la suite, voilà, de rester un peu à un endroit, à un autre endroit. Mais m'installer pour vivre quelque part, je peux plus maintenant, c'est faut que je bouge tout le temps.
D'autres questions, s'il vous plaît?
T. Williams qui demande, est-ce que tu vas commencer ta saison 5 par la Corée ou Taïwan?
La saison 5, ça sera que Taïwan. Donc, la saison 5, elle démarrera le premier jour quand je prendrai le billet d'avion pour aller à Taïwan et rejoindre Rick là-bas. Donc, voilà, ça sera ça la saison 5. Et avant la saison 5, je ferai une petite hors-série Corée du Sud d'un petit vlog. Je ne sais pas encore le temps. On est en train de voir avec Pierre ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, d'un petit vlog Corée ou de petits, si on se fait deux petits voyages, voilà, des petits shots comme ça. De l'exclu, que des trucs qu'on n'a encore pas vu en vidéo. Donc, voilà, ça va être très sympa ce qu'on va
Ça
faire en Corée.
donne envie.
Stéphane Walter demande si tu comptes refaire un trip Japon avec Pandaman et Hideto.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est prévu. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Et si je repars au Japon, c'est évidemment Panda, Hideto. On va se revoir et à repartir comme on s'est perdu à Okinawa ou Osaka. Voilà. C'est prévu.
Pakun demande niveau budget, un mois de Japon, ça s'était revenu à combien?
Niveau budget, bah moi je peux pas trop dire niveau budget, ça m'est revenu à combien, puisque moi déjà je suis venu de Corée du Sud. Hein, du Japon, donc j'ai pas eu le billet d'avion de France à prendre. J'ai pas payé de logement puisque j'ai été chez Kazu au début, qui m'a gentiment hébergé, puis après chez Hideto. Voilà, c'est assez compliqué. Donc niveau budget, je pourrais pas te dire combien ça m'est revenu. Par contre, ouais, le Japon, de tous les pays asiatiques que j'ai fait, c'est celui où tu ramasses le plus, hein, au niveau déplacement. Après, ouais, faut un bon budget, tu vois. Mais je referai, je pense, une vidéo, parce qu'il y a beaucoup de monde justement qui m'ont demandé au niveau du budget combien ça coûte pour le Japon et tout. Et il y a beaucoup de choses à prendre en compte, donc au niveau des déplacements, ce que tu veux faire là-bas, si tu veux bouger, si tu veux, ce que tu veux manger, si tu veux sortir, aller dans des bars à thème ou faire des trucs un peu spéciaux. Donc le budget, il va bouger très très vite. Je veux dire, si tu vas là-bas en mode j'ai pas beaucoup de sous, bah tu peux y arriver. Si tu commences à dire j'ai envie de sortir, de faire un karaoké, de rencontrer des gens et tout, là ça peut monter très vite. Donc c'est très compliqué d'estimer un budget, je trouve. Et je trouve que de s'engager à dire bah voilà, ça coûte tant d'aller là-bas, c'est un peu une erreur et dangereux puisque t'es pas à l'abri justement de faire une sortie un soir où tu vas rencontrer des gens, tu vas tomber sur des Japonais, des Japonaises, tu vas partir en club ou quoi, et voilà, bah tu vas prendre à boire. S'ils prennent à boire, tu vas pas dire bon bah, moi je prends une limonade parce que voilà. Ça peut monter très très vite, hein. Tu peux te faire des soirées à 50, soit 60 €, même plus que ça, et ça peut monter très vite, hein.
Je vais peut-être rebondir sur la question. Parmi tous les pays que tu as fait, et imaginons que parmi ceux qui nous regardent, il y a quelqu'un qui a envie de visiter pour la première fois un pays asiatique. Quel est celui que tu conseillerais? Alors, au niveau budget, celui qui est le plus intéressant, celui qui coûterait le moins cher, et au niveau des sensations que tu as pu ressentir dans les différents pays que tu connais.
Alors là aussi, c'est une question très compliquée qu'on me pose souvent, souvent, très souvent, on me la pose celle-là, quel pays tu me conseilles, voilà et tout. Et à chaque fois, bah, c'est très compliqué de répondre à ça, ça va vraiment dépendre de ce que veut la personne, d'avec qui elle part et ce qu'elle a comme attente. C'est-à-dire que si tu pars en couple, si tu pars avec des amis, si tu pars tout seul, si tu pars pour une semaine, si tu pars pour 2 mois, la destination, ça ne sera pas la même. Je sais que si par exemple tu pars une semaine avec un pote ou même avec ta copine, si tu pars à Hong Kong, je sais qu'à Hong Kong bah tu vas pouvoir justement en une semaine parce que c'est un peu court, te régaler, voir plein de choses. Hong Kong c'est pas très grand donc tu vas pouvoir faire des randonnées, voir vraiment des grands buildings, voir la Chine un peu traditionnelle dans le vieux Hong Kong, voir des villages de pêcheurs. Voilà, si maintenant tu me dis bah voilà, je pars avec deux trois potes, on veut faire les cons machin pendant 2 semaines et tout, je vais dire bah là tu peux faire un trip ici. Si tu me dis bah ouais, je pars tout seul, enfin ça va vraiment dépendre de tes attentes. Si tu pars pour faire de la photo, si tu pars juste pour découvrir, si tu veux vraiment te dépayser, si tu me dis ouais je vais aller à quelque part, je vais être dépaysé, je te dis bah va faire un tour au Vietnam, là tu vas être dépaysé c'est sûr. Avec les milliers de scooters dans les rues, la bouffe, tu vas galérer. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que la personne veut. Il n'y a pas de pays que je vais dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Ça dépend de ce que tu as envie de faire.
Et celui qui coûte le moins cher, alors?
Celui qui coûte le moins cher, ça va être le Vietnam.
D'accord.
Au niveau logement, au niveau bouffe, au niveau déplacement, le Vietnam, c'est le moins cher. De ce que j'ai fait, hein. Après, il y en a peut-être des moins chers, mais non, il me semble que c'est l'un des moins chers, le Vietnam.
D'accord.
Moins que la Thaïlande.
Une dernière question, enfin
pour le
cette
moment, pour
session,
cette
vous
session.
reviendrez après. Moi, je fais que ça, en fait, je fais des passages, moi, comme ça. Ariel demande, comment choisis-tu tes destinations? Est-ce que c'est plus au feeling ou tu te renseignes avant sur les pays que tu veux visiter?
Totalement au feeling, je me renseigne pas du tout. C'est ce qu'on disait justement au début du live. Je me renseigne pas du tout sur les pays qu'on fait. Totalement au feeling. Tu vois, là, juste derrière moi, il y a la carte du monde. Et je me rappelle la première fois que je suis allé en Corée du Sud, justement, j'étais en Australie. Et depuis l'Australie, je voulais aller en Chine, mais il fallait faire un visa. Alors, du coup, il fallait aller au consulat. Et puis, il me fallait ma carte d'identité que j'avais laissée en France. Donc, c'était assez compliqué. Je me suis dit, bon, où est-ce qu'on peut aller sans visa? Puis, il y avait la liste des pays. Corée du Sud, je connaissais rien du tout. Je savais pas si on parlait chinois ou c'était sur la carte, si c'était une île, rien du tout. J'ai fait, tiens, bah, regarde, c'est entre la Chine et le Japon. Bah, allez, vas-y, ça part, on va en Corée. On a pris les billets et nous voilà partis pour la Corée alors que je connaissais rien du tout. Je savais même pas ce qu'ils avaient comme alphabet, ce qu'on allait faire, rien du tout.
J'ai une dernière, toute dernière
Oui,
cette fois-ci, c'est
bien
la
sûr, bien
dernière.
sûr. Non, il n'y a pas de souci,
Attention,
on est là pour ça.
attention, c'est une question un peu Corée du Sud ou Japon?
Ah, c'est marrant que tu fais ça parce que j'ai un petit tableau avec les vidéos que ça serait bien que je fasse. Et il y a une vidéo qui s'appelle Japon versus Corée du Sud. Parce que justement, il y a beaucoup de monde qui me demande Japon ou Corée. Et je peux pas te répondre comme ça. Ah bah Japon ou Corée du Sud. Il y a vraiment des points dans chaque pays intéressants, des trucs un peu moins bien. Et c'est des questions qui méritent plus que juste un nom, tu vois. Ça mérite des explications et une argumentation pourquoi j'ai
Explication.
choisi ça. Et donc là, ça, je peux pas te faire ça en 30 secondes.
Ah, si, 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 si. Et on attend la réponse. Je ne te poserai plus de questions tant que tu nous auras pas dit Corée du Sud ou Japon.
Allez, vas-y, enchaîne les questions. Non, je peux pas te répondre à ça. C'est vrai que depuis que je voyage, il y a tout le temps les gens qui me demandent qu'est-ce que tu préfères, c'est quoi le mieux. Et depuis le début, ben, tu vois, c'est ce que j'ai dit à chaque fin de saison, quand je fais un petit débriefing dans mes vidéos, je dis toujours le plus du pays, ce qui était bien, ce qui était un peu moins bien, ce qui était bien, ce qui était un peu moins bien. Mais j'arrive pas à te dire ça c'est mieux et ça, ce pays il est bien et ce pays il est moins bien que lui. Chaque pays, comme c'est. Ça revient à la même chose que je te disais, pourquoi on va aller dans ce pays et pourquoi je vais te conseiller plus lui que lui. Ça dépend ce que tu vas vouloir faire. Bah là, c'est la même chose. Si même moi, je kiffe la Corée, je kiffe le Japon, si tu me dis, bon, bah voilà, là, on part une semaine faire un petit shot entre, je sais pas, faire un truc, je sais pas, avec ma femme ou quoi, bah peut-être que je vais partir ailleurs ou si c'est avec des potes, voilà, là, tu vois, avec Rick, on part à Taïwan parce que je sais que c'est super. Donc là, ce que j'ai envie de, là où j'ai envie d'aller, là, c'est à Taïwan. C'est pour ça que je repars là-bas parce que j'ai ma nouvelle caméra, puis je sais qu'on va aller voir un peu plus, on va se perdre là-bas. Voilà, ça dépend du moment et du truc. Il n'y a pas de mieux, ça, c'est mieux que lui, tu vois. C'est typiquement le truc que
Tu parlais
je peux pas.
de te perdre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure lors de la présentation. Donc, pratiquer le voyage sans préparation, c'est un mélange de plaisir ultime auquel tu ne t'attendais pas et certainement de grosses galères. Hein. Peux-tu partager avec nous les unes et les autres? Quelles ont été tes plus grosses surprises lors d'un voyage sans préparation et quelles ont été tes plus grosses galères? Hein.
Alors, les plus grosses galères, je pourrais te dire laquelle c'est. J'ai jamais eu de galère, c'est-à-dire même quand je me perdais ou que voilà où t'as plus d'essence, puis faut pousser ou que t'es perdu dans la nuit dans une montagne et que tu sais pas comment tu redescends de la montagne. Pour moi, c'est pas des galères, c'est des expériences et puis c'est toujours fun. J'ai eu une seule galère, ça a vraiment été chiant, c'est quand j'étais en Thaïlande et Vietnam où là-bas moi je suis parti sans aucune information comme tu sais et il y a des normes, enfin une information que j'aurais dû prendre, c'est tout ce qui est information hygiène, ne pas boire l'eau du robinet, l'eau si elle n'est pas en bouteille, éviter les glaçons, ce genre de choses. Et bref, quand je suis arrivé là-bas, j'ai été malade dès le début, un mal de bide. Hein, tu sais ce que est-ce que tu vois ce que c'est une gastro? Bah, tu vois ça à puissance 10 et j'ai eu ça tous les jours. J'ai eu ça tous les jours, Thaïlande, Vietnam, je l'ai traîné jusqu'au Hong Kong et ça m'a tué, ça m'a vraiment gâché un petit peu le truc, ça m'a vraiment fatigué, mis à plat. Et ça a été ma plus grosse galère parce que c'était très dur d'en sortir, tu vois, tous les jours, tu crois que ça va un peu mieux, mais en fait non, pas du tout. Et puis comme moi, je faisais les vidéos et que ça me plaisait, que j'avais pas envie de me reposer, de rester à rien faire 3 jours à l'appart et tout, bah je sortais et T'as qu'à t'imaginer que t'as une méga gastro de ouf et que tu pars marcher 20 bornes et que le soir quand tu rentres que t'es crevé, ben tu taffes 4-5 heures à faire ta vidéo. Ça, c'était ma saison 3 où j'ai enchaîné plein de choses. Et ça a été ma plus grosse galère. Ça a été ma plus grosse galère.
Marcher 20 km en serrant les fesses, ça doit pas être simple.
C'est pas facile. Ah ouais, non, ça a été un truc de ouf. Ça a été un truc de ouf. Ça, c'était ma grosse galère. La saison 3, on a voulu enchaîner trop de trucs. Normalement, dans un vlog, on prenait le temps, on prenait un mois dans un pays, tu vois. Il y avait des journées, on se faisait des petites sorties billard, des petits trucs et tout. Là, on avait vraiment mis le rush à fond. Allez, 15 jours ici, 15 jours là, 15 jours là, 15 jours là. Et du coup, ouais, la saison 3, c'est pour ça que c'est pas le début de la saison 3, ça commence super bien. Je veux dire, je suis en Thaïlande et tu vois, c'est pas le pays. Je suis allé que à Bangkok là-bas. Et donc, c'est très pollué, c'est très bruyant, il y a beaucoup de bordel. C'est difficile de trouver des restaurants là. Quand je dis c'est difficile, c'est que c'est pas aussi simple que dans d'autres pays asiatiques où il y en a tous les 5 mètres. Donc c'est pas le pays que j'ai le plus kiffé, c'est le pays où je me suis dans la saison 3 le plus amusé, parce qu'avec Rick, voilà, on était en pleine forme, on avait une super complicité, et au fur et à mesure des autres voyages, ben voilà, la fatigue commençait à se faire sentir, donc c'était un peu plus compliqué. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai retravaillé un petit peu les autres saisons, comme la saison 4 au Japon. Je me suis dit voilà, je vais aller dans un seul pays, mais je vais me concentrer sur le pays, on va faire quelque chose de bien. Et ça a pas loupé, puisque la saison 4 au Japon, tu vois, c'est un top, ça allait être top, quoi. Je me suis régalé.
Alors revenons au Japon, puisqu'on est sur Mission Japon.
Ouais.
Sur tes deux visites, je crois, hein, du pays, quels ouais. sont les moments qui t'ont le plus étonné, plu, séduit?
Alors dans la saison 3, bah comme je te disais, j'ai pas fait grand chose. J'ai beaucoup ramé dans la saison 3, le voyage au Japon. J'avais moyennement justement même apprécié ma première saison 3 au Japon. C'est pour ça que j'ai voulu y retourner et aller un peu plus profond dans les trucs. Et dans la saison 4, il y a ce qui m'a plu, enfin c'est. Je me suis régalé. En fait, ce qui a différencié le truc au Japon, c'est d'être avec des gens qui connaissaient un petit peu. Et le Japon, en fait, il y a des pays que si tu connais pas, par exemple la Corée du Sud, si tu connais pas la Corée du Sud, tu parles pas coréen. C'est très facile quand même de faire des choses et d'aller vers les gens. Et il y a beaucoup de monde qui parle anglais en Corée du Sud. Quasiment tout le monde comprend l'anglais. C'est vraiment, ils sont très ouverts sur le monde en Corée du Sud. Donc tout le monde comprend l'anglais. Donc c'est très facile, même si tu parles pas coréen, que tu connais pas le pays, de faire des activités, même des trucs très typiques, d'aller se perdre dans le pays. J'avais fait dans la saison 2 où je m'étais régalé justement. J'avais au sud de la Corée du Sud, t'as une île qui s'appelle Jeju-do. J'ai traversé. On était parti 15 jours avec Rick. C'est une grosse expérience de voyage. J'ai un très bon souvenir. On avait justement fait tout le tour de cette île, une partie du tour de l'île à pied comme ça. Donc là, bah pareil, c'est que des paysans là-bas. Enfin non, c'est pas que des paysans, mais on était vraiment dans dans la campagne. Donc on tombait sur des éleveurs, tu vois, des gens qui font les champs et tout. Donc ils sont pas du tout habillés. On est passé par des coins où ils se demandaient ce qu'on faisait là, les gens. Et ben on a pu justement, malgré qu'on connaisse pas du tout le pays, qu'on parle pas coréen et tout, profiter à fond. Alors que je pense que pour le Japon, c'est un peu plus compliqué et que il faut prendre des informations à l'avance pour le Japon, ou alors connaître un petit peu des gens sur place, mais tu peux moins y aller en freestyle. Et donc cette saison 4, justement, j'ai été accompagné par des gens qui connaissaient et j'ai pu vraiment aller au plus profond des choses et kiffer le truc.
On va parler bouffe parce que
je vais te couper, je vais juste justement ouais. revenir sur on m'a dit le Japon Corée machin les petites différences. Bah tu vois, c'est un très bon exemple que je pourrais donner dans la vidéo que je veux faire, le Japon, la Corée du Sud et tout. C'est tu vois que par exemple dans la Corée du Sud, c'est peut-être plus simple si t'as aucune connaissance du pays d'arriver à te sortir, enfin à faire des choses. Au Japon il y a des trucs merveilleux, mais faut prendre des informations à l'avance.
Il est 11h36, donc l'appétit est en train de venir, donc on va donner encore plus faim à ceux qui Vas-y. Nous regardent. Et on va peut-être pas forcément faire une comparaison Japon-Corée du Sud, mais tu aimes bien la bouffe, nous aussi on adore ça. Ça a été d'ailleurs un des moteurs pour aller découvrir le Japon. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les plats que tu as aimés au Japon, puis on parlera aussi des plats que tu aimes en Corée du Sud.
Alors au Japon, j'aime énormément. J'ai goûté des sushis de partout dans le monde. J'en ai mangé en Australie, n'importe où. Enfin, j'en ai mangé vraiment de partout en Corée du Sud. Les sushis du Japon, ça casse. Ah, les sushis du Japon. Qu'est-ce que c'est vraiment un truc de ouf, c'est la partie du thon rouge un peu grasse, la mi-grasse. Oh là là, quel délice!
Le
T'as le
taureau.
thon, il fond dans la bouche, mais c'est vraiment de la pure tuerie. Et un truc que j'aime beaucoup au Japon, c'est un bol de riz. Un bol de riz avec plein de sashimi dessus, je me rappelle plus du nom exactement de ce plat. Donc tu as des sashimi de thon, il y a du poisson blanc, il y a des œufs de je sais pas quoi, il y a de l'oursin. Et bref, voilà, c'est un bol de riz avec plein de poissons frais dessus en sashimi et ça c'est et j'adore ce plat. J'adore ce plat. Un régal.
Et en Corée du Sud?
En Corée du Sud, c'est barbecue. En Corée du Sud, c'est des malades de la viande, des barbecues, t'en as partout. Et donc là, ils te font des viandes, mais avec des spécialités délicieuses, quoi. Tu sais, tu prends ta petite feuille comme ça, tu prends ta feuille, tu mets ton bout de viande, tu mets un peu de kimchi, un petit peu de truc en sauce, bidule chouette, tu refermes ta feuille comme ça et tu mets ça dans la bouche. Et, un délice.
D'ailleurs,
Ça me gâte ça.
au Japon, on connaît bien le bœuf de Kobe, le bœuf d'Ida également. Est-ce qu'il y a des particularités de bœuf d'exception en Corée du Sud?
Y a du bon bœuf, mais c'est pas, on va dire, c'est pas, ils sont pas renommés pour ça. Ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont du très bon cochon. Ils ont du très bon cochon.
D'accord.
C'est à Jeju-do, ils ont du cochon noir, du cochon noir qui est justement un peu plus gras, mais pas gras, tu vois, du sale gras quoi, mais un truc qui donne du très bon goût avec une viande différente et tout. Et donc, ouais, ils ont des élevages de cochons très très bons.
Allez, on va terminer sur la bouffe, puis après Sylvain te posera peut-être la dernière salve de questions.
Ouais, ça
Juste une
marche.
question en
Ah
rapport
d'accord.
justement
Ah bah vas-y.
avec Jeju-do. Alors je ne sais plus qui, je n'ai pas noté le nom, honte à moi, qui
Ah c'est pas
demande
bien ça.
Jeju-do ou Okinawa.
Ah, tu vois, on me demande encore de comparer. Non, je dirais plus Jeju-do. Clairement, parce que tu vois, Okinawa, j'y suis allé donc avec Panda et Hideto. Bah déjà, non, mais ça n'a pas grand-chose à voir puisque Okinawa, c'est vraiment petit, c'est une petite île, alors que Jeju-do, c'est quand même pas mal plus grand et il y a beaucoup plus de choses à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai répondu assez rapidement comme ça. Okinawa, j'ai kiffé parce que j'étais avec Hideto et Panda et qu'on a fait les cons et voilà, on avait la voiture, on a rigolé, on est allé dans la mer alors qu'on nous, on savait pas, mais il y a des poissons mortels là-bas, on aurait pu mourir. Enfin, tu vois. Bref, on s'est régalé. Et donc, j'ai kiffé mon expérience à Okinawa parce que justement, j'étais avec mes potes et qu'on a fait les cons. Après, si je serais allé tout seul, je me serais peut-être un peu ennuyé. C'est vraiment petit, alors que il y a pas grand-chose à faire. Alors que Jeju-do, il y a beaucoup plus de choses à faire. C'est que t'y ailles, ou alors en couple. C'est le top spot pour les couples. Là-bas, t'as des pensions, on appelle ça, c'est des sortes d'hôtels, justement avec des petits appartements, des petits trucs ou quoi. Donc Jeju-do, tu peux le faire ou en couple et tu vas te régaler parce que t'as des petits cafés, des petits trucs cocons, des petites activités, des petites visites à faire. Ou alors en exploration comme on a fait avec Rick et voilà, on s'est régalé aussi. Donc,
Je vais te laisser poser des questions et
D'accord.
puis je reviendrai peut-être
Oui, je voulais
à la
clôturer
prochaine.
un petit peu la partie bouffe. On a parlé de ce qui était le meilleur. Parfois au Japon, on a aussi des choses qui sont un peu particulières. Hein. Dans la dernière vidéo de chez Van Japan, tu goûtes du sperme de poisson, par exemple.
Je goûte une sorte de poisson, tout à fait.
Quelles sont les choses qui t'ont vraiment dégoûté dans les deux pays, d'ailleurs hein.
Est-ce que ça a piqué les papilles?
J'ai pas pris ça pique la gorge. Non, le sperme de poisson, c'est la texture, tu vois, c'est très gluant,
Que t'allais
c'est
dire
un
c'est
peu
la vie.
collant. C'est un peu collant, donc tu prends un bout, puis ça sort de grumeaux. Non, non, c'est la texture quand tu sais ce que voilà, c'est un peu, c'est très chelou. Puis même le goût, c'était pas tip top. Donc moi, non, le natto au Japon, je trouve ça tellement immonde. Le natto, c'est gluant et le goût, ça te laisse un goût en bouche. Ah, c'est écœurant. Je déteste le natto, c'est horrible. J'aime tout, je peux tout manger sur la planète. Tu vois, j'aime tout, je suis pas difficile, je goûte, y a pas de problème. Mais alors le natto, voilà. J'ai goûté quand même, mais j'ai pas kiffé. Ah, je sais pas s'il faut s'habituer comme le fromage ou quoi, mais j'ai pas envie de m'habituer.
Et en Corée du Sud, est-ce qu'il y a des plats comme ça un peu bizarres?
Ouais, en Corée du Sud, ils ont des plats bizarres. Ils mangent du poulpe vivant. Tu vois,
Vivant.
des petits poulpes vivants comme ça, tu vois. Et le poulpe, il bouge encore, il est vivant en entier et ils doivent le gober. Bon, faut faire gaffe parce que ici, se coince dans ta gorge, tu peux crever, donc je l'ai jamais fait. Mais ouais, ils font ça. Ou sinon, ils prennent le poulpe, Et pour ceux qui veulent pas le gober en entier comme ça, ils prennent le poulpe et ils te le coupent en plein de morceaux. Il est cru et tu manges comme ça. Et en fait, avec les nerfs, le poulpe il bouge encore, je sais pas, peut-être une demi-heure. Donc t'as les tentacules qui bougent encore comme ça pendant une demi-heure. Donc ça te fait une assiette comme ça où t'as tout qui bouge dedans. T'as l'impression que c'est plein de verres qui bougent alors que c'est tous tes tentacules qui bougent. Et quand tu le mets dans la bouche, t'as les petites tentacules, elles s'accrochent comme ça, tu vois, avec les réflexes, et elles se collent comme ça, et c'est assez bizarre.
C'est étrange.
Mais c'est bon.
C'est vrai?
Ouais.
Là, cette fois-ci, on va vraiment clôturer sur la bouffe. La Corée du Sud est connue comme étant un pays avec des aliments relativement pimentés. Quel est
Non,
le
pas relativement, très très
très
pimenté,
pimenté,
tu veux dire.
quel est le niveau? Enfin, je veux dire, quand on arrive dans ce pays, qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger aussi pimenté, il faut se méfier. Il y a des choses à savoir. On peut demander différents niveaux de.
Tu vas ramasser. Si tu
C'est
arrives dans le
vrai.
pays, que t'es pas habitué au piment, tu vois, là, c'est un truc. La bouffe japonaise, on va comparer la Corée et le Japon encore. La bouffe japonaise est beaucoup plus accessible pour nous, Européens, que la bouffe coréenne. La bouffe coréenne, si t'aimes pas le piquant, tu vas ramasser. Bah, tu vas ramasser un truc de ouf. Ils mettent du piquant de partout. Non, il y a des plats où tu manges pas piquant, mais la majorité des plats, il y a un bout de piment quelque part qui est dissimulé, qui se planque. Ah non, c'est. Donc moi, tu vois, au début, c'était un peu compliqué. Mais quand tu prends l'habitude, là maintenant, je peux tout manger en Corée du Sud. Même les plats les plus piquants, je peux les manger, il n'y a pas de problème. Mais il y a des plats qui sont over piquants de ouf, mais des trucs, tu fais, mais pourquoi ils font ça? Ça te brûle la bouche. Non, mais c'est très piquant. Donc c'est vrai que si t'aimes pas le piquant, en Corée du Sud, c'est compliqué.
Alors en France, quand on mange épicé, il faut manger de la mie de pain, mais il n'y a pas de mie de pain en Corée. Comment on fait pour...
Ils ont des espèces de radis qui est imbibé dans des espèces de vinaigre et tout. Et quand tu le mets dans la bouche, ça te calme le piquant tout de suite.
Ah, excellent.
Donc, ouais, ça te. Voilà. T'as toujours, quand tu vas en Corée du Sud, t'as pu voir, si tu connais un petit peu là-bas, bah ouais, tu me rappelles que t'es allé là-bas en Corée du Sud. Donc, t'as toujours ton plat principal et plein de petits plats. Et dans ce petit plat, peut-être que t'as dû voir ça quand tu y étais. Je viens de me rappeler que tu m'avais dit que tu y avais été. T'as des espèces de rondelles vertes comme ça, là. Je sais pas si t'avais déjà vu.
Ça me dit rien. Ça dit quelque
Des
chose,
rondelles vertes comme
mais
ça, ou alors des trucs de cornichons. Et bref, quand tu manges ça t'apaise le piquant.
Ah
Ça
oui,
t'apaise le piquant.
si, je me rappelle.
Ouais,
Ouais.
bah Sylvain, ça lui dit quelque chose. C'est intéressant de savoir ça. Très
Moi, j'ai une
intéressant.
question,
C'est vrai?
mais pas de quelqu'un, c'est de moi. Du coup, est-ce que le fait de manger épicé, après, quand tu vas aux toilettes, tu fais jaillir les flammes?
Ah, les femmes, elles sentent. Si ça bouge, si ça bouge, si ça pique à l'entrée, en général, ça pique à la sortie aussi.
Voilà,
Voilà, pile dans
c'est
les deux
super
sens.
intéressante, mais
ça c'est fait.
Sinon, comme question, j'ai toujours dans l'épicé, wasabi ou kimchi?
C'est dingue.
Alors,
Ouais, non,
c'est
mais
deux piquants
c'est.
différents. C'est deux piquants différents. Le wasabi, c'est comme de la moutarde très forte, c'est-à-dire ça pique en bouche, mais c'est pas un piquant qui reste. Tu vois, c'est le même piquant que la moutarde forte qui te fait mal à la tête, mais ça va pas te brûler. Alors que tout ce qui est piquant en Corée du Sud, c'est du vrai piquant de piment qui brûle. Le wasabi, tu vois, ça te remonte dans le nez, ça te fait un truc dans le nez et tout, comme de la moutarde forte, mais ça te brûle pas.
Alors,
C'est pas la même.
le kimchi, ça te descend dans les fesses. Voilà, c'est un peu la
Ah.
différence.
Super. Bon, sans transition, j'ai une question qui demande, on demande si ça dérange pas trop ta femme que tu partes plusieurs mois. Donc
Alors,
vraiment,
plusieurs
aucun
mois,
rapport, mais.
je fais pas plusieurs mois en général. Là, tu vois, quand je suis parti au Japon, je suis parti qu'un mois. Donc, non, ça la dérange pas. On s'est rencontrés en fait comme ça. On s'est rencontrés comme ça. Elle sait que moi, YouTube, les vidéos, c'est mon truc. Donc, non, il n'y a pas de problème. Du moment qu'après, je bosse assez quand je rentre et qu'on me permette de survivre, il n'y a pas de souci. Mais bon, elle aussi, elle avait une bonne situation quand elle était en Corée du Sud. Donc, ça va, quoi.
J'ai encore deux questions. Donc, si vous avez, vous, des questions à poser, c'est maintenant qu'il faut le faire.
Moi, j'en ai une,
Ah,
peut-être
vas-y,
une.
c'est bon.
Ilias Fadili demande Suica ou Timonet. C'est toujours les duos, en fait. J'ai l'impression que c'est comme dans.
Versus.
C'est quoi le truc qui passe à minuit déjà? Tout le monde veut prendre sa place, tu vois. Question en duo, quoi. C'est toujours ça, là, depuis le début.
Je vais dire Timonet. La Timonée, parce que la Timonée, tu peux t'en servir absolument partout dans le pays. C'est-à-dire que tu sois en Corée du Sud, que tu ailles à Busan, que tu ailles dans un Seven, que tu ailles dans un, que tu prennes le taxi. Non, pas le taxi, qu'est-ce que je dis? Si, tu peux payer avec la timonée, le taxi en Corée du Sud. Ouais, dans le taxi et tout. C'est plus simple. Plus simple. Les automates aussi sont très très simples en Corée du Sud. Après, ça se voit là. Je sais qu'ils ont fait pas mal d'efforts au Japon justement pour que ça devienne de plus en plus simple. Je sais qu'avant il y avait différentes cartes au niveau des transferts de métro, c'était un peu compliqué. Il fallait reprendre un autre ticket et tout. Là, je sais qu'au Japon ils ont fait des efforts et que la Suica est devenue très pratique. Donc ça se voit plus ou moins maintenant. Je sais pas si on peut prendre le taxi avec la Suica au Japon. Moi, je peux pas.
Si, je
Le
crois
Japon,
qu'on
ça.
peut, il me semble.
Et donc, du coup,
Le
en fait,
taxi.
t'es plus Team Money que Team Suica, en fait. Bon, ok, je sors.
Tu es, Laurent, un vlogueur. Hein. Un vlogueur,
Ouais.
c'est quelqu'un qui marche dans la rue, face cam, qui explique un petit peu ce qu'il voit et qui filme tout autour de lui.
Alors, à la base, ouais, à la base, un vlog, c'est ça, c'est un mec qui a des choses à raconter. Après, il y a eu beaucoup de variantes de mecs qui ont fait des vlogs et qui filment en train de manger des céréales et qui appellent ça vlog. Moi, j'appelle pas ça vlog. Moi, j'appelle ça, je monte ma live sur Internet et ça intéresse pas beaucoup de monde.
Alors
Donc, ou ça intéresse du monde. Mais non, non, pour moi, ouais, le vlog, c'est ça, c'est justement essayer de faire découvrir des choses et c'est pas juste faire des petits trucs comme ça. Donc, ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a 4 ans, quand j'ai commencé à vlogger, donc je suis parti, quand je suis parti en Australie, c'est mon pote justement qui revenait d'Australie qui me montre une chaîne YouTube comme ça qui s'appelle BFGF, qui maintenant ne fonctionne plus trop puisque le couple s'est séparé. Donc la chaîne c'était Boyfriend versus Girlfriend. C'est un couple d'Américains, des jeunes, qui se filmaient tous les jours et qui partageaient voilà leur quotidien tous les jours. Donc tous les jours ils mettaient une vidéo, ils faisaient des trucs plus ou moins sympas. Et à l'époque, donc il y a 4 ans, quand je découvre ça sur Internet, je suis putain, mais c'est excellent comme concept et tout. Donc tu peux suivre dans les trucs qu'ils font. Puis tu vois. Et en fait, t'avais cette sensation de proximité avec le couple. Et le vlog comme ça, à l'époque, n'existait pas du tout en France. C'est-à-dire en France, il y a 4 ans, le vlog, ça n'existait absolument pas. Il y avait pas. Il y avait un seul YouTuber qui faisait des vlogs. C'était The Tall Theo, un mec qui a une chaîne qui s'appelle une chaîne principale qui s'appelle Beast Mode 3, qui faisait des vidéos de jeux vidéo. Et il avait fait une petite chaîne secondaire qui s'appelait The Tall Theo. C'est un Canadien. Et donc, il faisait des vlogs où il se filmait au Canada en train de faire des petits trucs de temps en temps comme ça. Mais en France, sinon, le mot vlog, ça n'existait pas. Quand je disais aux gens, ouais, je fais du vlog, les gens me regardaient, c'est quoi un vlog? Et c'est incroyable, en 4 ans, comme ça s'est développé, et comme maintenant tout le monde se met à faire du vlog et tout. Et c'est vraiment incroyable, en quelques années, voilà, comme ça a évolué, comme les choses, elles bougent vite et tout. Et ouais, donc à la base, ouais, je te laisse finir.
C'est quoi pour toi un bon vlogueur, un bon vlog?
Un bon vlog, bah, c'est quelqu'un qui montre des choses intéressantes. C'est quelqu'un qui montre des choses qu'on connaisse pas. C'est pas quelqu'un en fait qui va bah ouais c'est quelqu'un qui a quelque chose à montrer quoi. C'est ça. On fait pas du vlog pour dire bah voilà je vais faire une vidéo parce que hein, on a quelque chose à montrer, à partager, tu vois.
D'ailleurs, on a nous deux, enfin nous deux par rapport à toi, une vraie différence, c'est que toi, comme je le disais dans la présentation, le but du jeu, c'est d'être le plus rapide et le plus efficace pour montrer la vidéo, donc dès le soir ou la nuit, donc quelques heures après que la journée soit terminée, alors que nous, on prend énormément de temps, puisqu'on prend 15 jours pour une journée, toi, tu prends quelques heures pour une journée, on est long, on est lent, avec des résultats qui sont certes différents, puisque on a nous cette faculté de pouvoir prendre du recul et parfois de pouvoir travailler des choses. On a eu un concours de circonstances similaire où toi tu as perdu des informations de ton disque dur, nous avons perdu des informations de notre
Carte
carte
SD.
SD. Nous on a pu en faire un petit scénario. Alors toi t'as pas eu le temps de faire ce genre de choses. Est-ce que tu oh. L'un et l'autre, c'est deux choses complètement différentes, qui sont complètement complémentaires. Et là, on va pas faire comme Corée versus Japon, vlog versus vidéo documentaire. Mais est-ce que toi, tu souhaites continuer dans cet esprit-là, ou est-ce que tu aimerais peut-être partir sur d'autres façons de filmer tes aventures, hein?
Alors moi, pas du tout. Moi, je veux continuer sur cette façon de faire mes vidéos. Ça apporte justement, puisque je suis le seul à faire ça, donc à partir dans des
C'est
pays, à
clair.
faire des vidéos au jour le jour comme ça, de façon régulière. Ça apporte une vision différente du pays, tu vois, où les messages les plus souvent que j'ai, qu'on m'envoie, c'est « Tiens, j'avais l'impression d'être avec toi, tu vois,
C'est
de façon
ça,
de suivre. »
absolument.
Voilà, de façon de suivre tous les jours comme ça le voyage et de voir les choses. On me dit souvent, j'ai l'impression d'être à tes côtés dans le voyage et de voir avec tes yeux. Et c'est en fait ce contenu que je donne qui est différent des autres. Et certes, voilà, ça me met à contribution tous les soirs et tout. Et je pourrais donner plus d'informations. Genre, tu vois, il y a des vidéos qui se complètent très bien. Si par exemple, je prends Ichiban Japan, on a fait les mêmes trips, mais on a deux visions différentes. C'est-à-dire que moi, quand tu vas voir mes vidéos, tu vas avoir l'impression, on va dire, d'être avec moi, tu vas le voir sur le moment et tout, tiens, voilà, un peu comme si voilà, on avait fait le truc ensemble. Et quand tu vas voir la vidéo d'Ichiban Japan, elle va être du coup travaillée d'une autre façon, mais lui il va avoir le temps justement de mettre des informations, genre tu vois, des petites annotations, voilà, ça nous a coûté tant, et puis là vous voyez avec des petits plans, des petits trucs, une construction de vidéo différente, plus documentaire du coup. Voilà, donc c'est deux choses qui se complètent. Donc c'est moi justement, j'ai plaisir justement à partager justement ce truc sur le moment de partager. Ça a toujours été comme ça le vlog en fait, et c'est pour ça justement que je prenais pas d'informations, que je contrôlais pas. On va dire c'est des réactions à chaud, donc il faut que je les transmette à chaud, tu vois. C'est il n'y a pas de ok, donc je vais aller voir ici, je vais plutôt filmer le truc comme ça et tout. C'est juste j'ai ma caméra dans les mains et waouh, vous avez vu là, c'est un truc de ouf. Et je tourne la caméra, ouais, puis voilà, c'est une construction de vidéo différente et c'est
Différente,
ça qui me plaît.
et sincèrement, on admire vraiment le courage, le travail et l'énergie que tu mets là-dedans, parce que on a essayé de faire ça avec Sylvain au tout début, on n'a pas réussi. C'est
Clairement.
incroyable ce que tu fais, vraiment.
Ouais,
Ah,
clairement.
c'est gentil, hein. C'est des heures de boulot. Hein.
Ah ouais, mais
Mais c'est un
c'est
plaisir, mais c'est un plaisir. C'est
mais ça
vraiment mon
sent,
kiff.
ça sent,
Et il y a un truc, tu vois, qui m'a fait halluciner, où je me suis surpris moi-même, c'est quand j'étais justement dans cette saison 4 au Japon. Et tu vois, tous les soirs, je me couchais, ça devait être, allez, 3, 4 heures du mat, 5 heures du matin. Et donc je me couchais très tard, puisqu'en général on rentrait assez tard avec Kazu, on rentrait genre 11h30, minuit, minuit et demi, donc le temps que je finisse la vidéo, c'était facile 4-5 heures. Et du coup, 4-5 heures, et je savais que le lendemain, on avait d'autres trucs de prévu, donc il fallait que je me lève à 9-10 heures, donc ça me faisait quoi? Ça me faisait 4-5 heures de dodo par nuit, après avoir marché 20 bornes, être bien crevé et tout. Et donc tu fais ça une fois, deux fois, deux. Mais c'était tous les soirs, tu vois, comme ça, 4-5 heures de dodo par nuit, des fois moins, quand je vais prendre le métro tôt le matin. Genre, il y a des matins où je suis parti à 8 heures, donc je vais me lever à 7 heures. Donc là, je dormais vraiment 2-3 heures. Et tu vois, je pensais pas que j'étais capable de dormir si peu et de pouvoir enchaîner autant de choses. Mais il y a un truc qui m'a vraiment choqué. C'est, je me rappelle le matin me réveiller comme ça. Donc, tu as la vidéo de la veille qui est en ligne et tout. Et je me rappelle le matin, je me réveille. Puis, tu vois, j'ai la tête dans le cul. Puis, je prends mon téléphone et je regarde les commentaires des gens. Et je vois plein de commentaires sur la vidéo. Ouais, on kiffe, c'est super. Vivement la prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu vas nous montrer demain? On a hâte de voir. Ouais, super machin et tout. Et tu vois, et tous les commentaires comme ça positifs, mais mine de rien. Et je pensais pas, tu vois, on dit, on parle machin et tout, mais ça me donnait vraiment de l'énergie. Tu
Je
vois, un peu
comprends,
comme
ouais.
un Genkidama où tout le monde m'envoyait leur énergie. Vas-y, Lolo, vas-y, on va voir d'autres choses demain, ça va être de la folie et tout. Et ça me donnait vraiment d'énergie et ça m'a vraiment motivé et donné de l'énergie. C'est genre, je me réveillais un peu fatigué, mais quand je voyais tous les commentaires, je me disais, allez, on va encore envoyer les flammes aujourd'hui et on partait. Et c'est pour ça qu'à chaque début de vidéo, tu me voyais avec une patate. Ah, c'est parti, bienvenue à tous en Corée, au Japon, vous allez voir, on va tout déboîter aujourd'hui. Et voilà, c'était vraiment dingue cet effet que ça pouvait avoir. C'est pas du vent ou quoi, enfin, c'était vraiment très fort.
Ouais, je comprends, ouais. Sylvain.
Alors, je vais te poser la dernière question. D'abord, je tenais à remercier aussi toutes les personnes qui ont posé des questions et qui ont été super actives sur le chat. J'ai peut-être pu sauter des questions que je n'ai pas vues, donc dans ce cas-là, je m'en excuse.
Merci, merci à tous, merci à tout le
Alors,
monde.
du coup, la dernière question, c'est de Arnaud Ryoku qui demande « Tu penses globe-trotter encore combien de temps ?»
Ouais, bah, tout le temps, je compte pas m'arrêter. Je compte pas m'arrêter de globe-trotter. Alors, globe-trotter, j'aime pas trop l'expression globe-trotteur, puisque justement, je suis pas un blogueur voyage ni un globe-trotteur, puisque moi, il y a des pays qui m'intéressent pas du tout. Il y a des coins du monde que j'ai pas envie d'aller, donc j'ai pas envie de, ouais, je veux voir tous les pays du monde, ouais, je veux aller là aussi. Là. Non, non, moi, je fais que les trucs comme on dit depuis le début, au feeling que j'ai envie de faire. Mais je compte pas m'arrêter justement de faire ces explorations. Je compte bien continuer justement aussi avec le voyage des abonnés parce que si ça peut permettre à des gens voilà de partir et de partager des choses et si je peux moi je peux faire partager mon savoir à des gens, eh ben ça m'épanouit justement ce truc. Donc je compte bien faire évoluer la chose et continuer aussi là-dedans. Donc voilà, je compte pas m'arrêter de entre guillemets globe-trotter.
Est-ce que tu vis aujourd'hui de ton activité de youtubeur?
Absolument pas, absolument pas. C'est pour ça que là que je suis en France, c'est que justement je travaille. La semaine dernière, j'ai fait chauffeur-livreur. Samedi, pour faire plus d'heures, je suis travaillé dans une sorte de truc de tri de carton, genre tu vois un truc genre Chronopost où tu tries des cartons et tout. Là, je me suis levé à 5 heures. Là, dimanche, bah voilà, c'est mon jour de repos. Et là, la semaine prochaine, bah ça continue. Donc non, je vais pas du tout encore de mon activité youtubeur. Ça doit
Et là,
bosser, ça doit bosser, ça doit bien charbonner même.
ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider alors?
Qu'est-ce qu'on peut faire pour m'aider? Envoyer des sous sur Tipeee!
Bah
Non, ce qu'on peut
oui,
faire pour
bien
m'aider,
sûr, hein. Bien
c'est
sûr.
partager, voilà. Plus il y aura de vues, voilà, plus il y aura de retours, plus ça pourra débloquer des choses. Et voilà, un gros merci à tous les tipeurs, voilà, qui ont été vraiment généreux dans cette saison 4 et qui m'ont permis de faire plein de choses, qui m'ont permis notamment de faire cette extra saison quand je suis parti avec Ichiban, voilà, bah, grâce aux dons. Donc plus, voilà, c'est tous ces petits trucs à droite à gauche, tu vois, où tu fais la pieuvre, tu prends là, tu prends là, tu prends là, et puis tu arrives à construire comme ça.
Mais tu penses avoir une petite boutique pour vendre des t-shirts, des cartes postales, ce genre de choses qui te permettraient au final de pouvoir vivre de ton activité?
Non, moi, tu sais, je suis pas un businessman. Moi, je suis
Bon,
quelqu'un de.
c'est pas forcément businessman, mais
Ouais, mais.
ça peut permettre aux gens justement de t'aider, d'avoir aussi un souvenir de tes voyages, de vendre des cartes postales aussi, tu vois, ce genre de choses.
Non, mais je le fais comme. Bah, après, j'ai mis les cartes popo sur Tipeee. Donc, tu vois, tu peux prendre des cartes popo sur Tipeee. Quand tu fais un don, bah, tu reçois les petits stickers, la carte popo ou quoi. Donc, j'essaie toujours d'être généreux dans les contreparties. C'est pour ça que là, j'ai mis du temps à les préparer et que j'avais plein de colis et de lettres à faire quand je suis rentré du Japon. Mais non, après monter un business, bah, là, clairement, j'aurais pas le temps de gérer le truc. C'est pas un programme. Du tout ça, non. Là, le programme, c'est vraiment se concentrer sur le voyage des abonnés et se concentrer sur faire des petites saisons à côté, mais pas de. Après, si je veux faire des sous, ben, je vais travailler. Voilà, je fais des sous comme ça.
Laurent, merci beaucoup de nous avoir répondu aussi sincèrement et aussi volubilement aux questions que nous avions à te poser. Il y en a certainement plein d'autres, mais pour ça, il faudra aller sur ta chaîne YouTube pour te poser directement les questions dans les commentaires de tes vidéos. Nous mettrons bien évidemment, mais je pense que la quasi-totalité des gens qui nous suivaient connaissent les adresses dans la description de ce live en replay, les différentes adresses qui permettent d'aller sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube. On te souhaite beaucoup de courage. On nous souhaite beaucoup de vidéos de ta part pendant encore très très longtemps. On attend avec impatience les prochaines saisons, les voyages abonnés. Et on voulait te dire, Sylvain et moi, qu'on te kiffe
Voilà.
et qu'on aime...
Grosse déclaration d'amour.
Qu'on t'aime toi, qu'on t'aime tes vidéos, qu'on aime ton énergie et qu'on était très heureux de t'avoir avec nous en ce dimanche matin.
Ah bah écoute, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur et bah, du coup, ouais, ça fait très plaisir. J'étais très content de vous rencontrer quand vous êtes venu à Draguignan la dernière fois, donc c'est. Merci, ça fait plaisir.
Avec
Merci à
plaisir.
toi.
Merci beaucoup aux nombreux, je crois qu'on a battu des records sur notre
Ouais.
chaîne, aux
67, intéressant.
67 personnes qui nous suivaient en même temps. Merci, merci à tout le monde. On se retrouve, nous concernant, dans une
Deux semaines pour un
trizaine de
autre.
jours pour l'épisode 11 de nos aventures au Japon. Et puis le live post-épisode le samedi dans 15 jours. Et un nouvel invité pour la quatrième édition
C'est
de
ça.
Mon Japon, le live du dimanche 11h. J'espère que vous en avez maintenant l'habitude. Merci beaucoup. Bon dimanche. À bientôt. À très vite.
Et surtout,
Bye.
hasta la
Merci à tous les
vista.
viewers et
Hasta la
merci à vous
vista.
du coup
Et
pour cette interview. C'était
on
vraiment
fait un
top.
petit Hasta la vista.
Hasta la
Hasta la
vista.
vista.
Bye.
Salut.
Salut.